Alors, je vais peut-être commencer par me présenter rapidement. Donc effectivement, moi, je représente plutôt les sciences humaines et sociales. Je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, que je vais vous présenter brièvement avant d'entrer dans le cœur du sujet. Je suis plus précisément économiste et je dois dire, peut-être en guise d'introduction, je ne suis pas du tout spécialiste des questions liées à l'océan et donc ça m'impose évidemment une certaine humilité. Mais il se trouve que en ce moment, je dirige le département de sciences sociales de l'IRD et donc ça me permet d'avoir une vision des travaux que peuvent faire mes collègues. Et donc, j'ai largement puisé dans leurs travaux et c'est ça que je vais, enfin, c'est quelques-uns d'entre eux que je vais vous présenter ou en tout cas sur lesquels je vais m'appuyer pour ma présentation. Alors peut-être juste en préambule, quelques mots sur l'IRD. Peut-être que c'est un établissement de recherche que vous connaissez. En général, il est moins connu que le CNRS, en partie parce qu'il est beaucoup plus petit, puisque le CNRS compte, je crois, 36 000 agents, alors que l'IRD en compte un peu plus de 2 000. Donc on n'est vraiment pas du tout. On ne fait pas du tout la même taille. Mais comme le CNRS, on est un organisme interdisciplinaire, pluridisciplinaire avec des chercheurs qui travaillent dans des domaines aussi variés que les géosciences, l'écologie, la démographie, l'anthropologie, en passant par la biologie, etc. Donc vous trouvez aussi bien des généticiens des poissons que des gens qui vont travailler sur les dynamiques de population humaine. Et ce qui nous lie, c'est qu'on travaille tous sur les pays de la zone intertropicale ou les pays méditerranéens. Voilà. Et donc on est sur ces pays qui sont en général toujours en rouge dans les travaux, dans les présentations des climatologues, parce que ce sont les pays qui, bien que étant les moins à l'origine du changement climatique, en pâtissent le plus. Peut-être une spécificité de l'IRD aussi par rapport au CNRS, c'est que du fait des champs géographiques sur lesquels on travaille, on a aussi une mission qui est le renforcement de capacités de recherche dans les pays du Sud, et donc d'accompagner le montage d'équipes scientifiques, de renforcer les compétences de scientifiques dans les pays du Sud, ce qui fait que on a une double tutelle, à la fois ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et aussi ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour tout ce travail qu'on mène en coopération et en partenariat avec des équipes scientifiques au Sud. Et la voie de conséquence de cet accent très fort mis sur la zone intertropicale fait que pour les besoins de leur recherche, beaucoup de nos chercheurs sont directement affectés dans les pays dans lesquels ils travaillent. Et donc on a un tiers des agents qui sont affectés hors métropole. Voilà, et donc ça fait qu'au total, des chercheurs sont présents dans environ 90 pays, et donc vous voyez évidemment avec une concentration très forte, pour les raisons que j'ai indiquées, dans les pays de la zone intertropicale. Alors maintenant, pour reprendre un petit peu pour revenir au sujet qui nous anime, moi je vais parler entre autres de choses. La première étant ce problème d'érosion côtière qui a été mentionné dans la première intervention. En vous présentant donc d'abord deux cartes qui vous expliquent un petit peu pourquoi dans les pays de la zone intertropicale, évidemment, les phénomènes d'érosion côtière sont particulièrement préoccupants. Vous avez sur ces deux cartes en fait la répartition de la population en Amérique latine et en Afrique. Et comme vous pouvez le voir de façon assez évidente, une grosse partie de la population est concentrée sur les côtes. Et donc évidemment, si les côtes s'érodent du fait de la montée des eaux ou du fait de phénomènes de vagues, etc., potentiellement, ça va impliquer la nécessité de revoir complètement l'allocation de la population dans ces pays, sachant que l'intérieur des terres pour certains de ces pays est sinon invivable, en tout cas, on passe de le devenir si effectivement les prévisions prévisions des climatologues se révèlent exactes à l'horizon ne serait-ce que 2050, et si on est sur un des pires scénarios du GIEC, à savoir un réchauffement de plus 3, plus 4, pas 4 degrés, puisque c'est un réchauffement moyen, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'Afrique, dans le Sahara, on va peut-être être sur du plus 7, plus 8, et donc ça va rendre clairement certaines zones complètement invivables. Donc on va avoir vraisemblablement une tension forte entre des forces qui font que les populations côtières sont amenées à reculer et en même temps une force de l'intérieur des terres qui fait que certaines zones devenant invivables vont amener des gens à se rapprocher des côtes. Et on peut très bien entrevoir ce que ça implique en termes de mobilité, de migration, et probablement ça explique le caractère très anxiogène de certains pronostics qui peuvent être faits un peu catastrophistes, je dois dire, en tant que spécialiste des migrations sur les perspectives que ça peut impliquer en termes de mobilité. Une autre façon d'illustrer les choses, alors je suis désolée, ça ne rend pas très bien, là on voit quelques petits points, mais à gauche c'est donc l'Amérique latine et du Sud, et puis à droite c'est l'Afrique. En fait, les petits points blancs, c'est l'intensité lumineuse, donc ce sont des images satellites prises pendant la nuit. Malgré le fait qu'on ne voit pas grand-chose, on voit quand même les petits points, et on devine vaguement que ces petits points, en fait, ils dessinent les contours des deux continents dont j'ai fait mention. Et l'intensité lumineuse, alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce que les économistes aiment bien utiliser l'intensité lumineuse comme marqueur de l'activité économique, à défaut souvent d'avoir des données plus fiables issues d'enquêtes, etc. Donc on utilise l'intensité lumineuse comme indicateur de l'activité économique. Et là encore, bon, pour l'Afrique, on ne voit vraiment rien, mais en tout cas, sur ma diapositive, là, on voit bien que là encore une fois, l'intensité lumineuse est vraiment concentrée sur les côtes. Et si je rétrécis un peu la focale sur le cas de l'Afrique de l'Ouest, et que je me limite à cette frange littorale donc, qui va donc, des côtes jusqu'à 25 km à l'intérieur des terres, je pense que les quelques chiffres qui sont sur la diapo vont vous convaincre définitivement de l'importance de ces régions côtières pour les économies de ces pays et les populations de ces pays. Vous avez la frange côtière à laquelle je fais référence, elle est indiquée sur la carte qui est en haut à gauche. Si on regarde la part de la population qui se concentre sur cette frange littorale, encore une fois, qui est très étroite, de 25 km depuis les côtes, c'est 31% de la population totale, donc presque un tiers, et plus de la moitié de la population urbaine. Okay. La raison en est que les capitales économiques de tous les pays que vous avez là, elles sont situées sur les côtes. Lomé au Togo, Cotonou au Bénin, toutes ces capitales, elles sont en zone littorale. En termes économiques, la frange littorale, elle pèse aussi très très lourd, puisque c'est 56% du produit intérieur brut de cette zone. D'accord ? Autant dire que par catastrophe, la montée des eaux était telle que cette frange littorale venait à disparaître, on voit bien quelle catastrophe économique ça entraînerait. Au-delà de l'économie, au-delà de la démographie, c'est aussi des endroits où il peut y avoir des sites patrimoniaux très riches, avec de la biodiversité, etc. Et donc là encore, c'est la raison pour laquelle il importe d'être très attentif à la préservation de ces régions côtières. Sans vouloir être trop catastrophiste à mon tour, le problème en termes de population ne va pas s'arranger tout de suite, puisque comme vous le savez, et je pense en particulier donc à cette région de l'Afrique de l'Ouest, c'est une région qui connaît une très forte pression démographique, puisqu'on estime qu'à l'horizon 2050, la population urbaine du littoral pourrait passer à plus de 80 millions de personnes. On en avait 18 millions en 2000 et on en prédit 36 millions en 2020. Donc vous voyez que, à l'instar de ce qu'on peut dire sur l'Afrique en général, on s'attend à une très très forte augmentation de la population en zone côtière, avec malgré tout une certaine hétérogénéité entre les pays, pas tellement en termes de croix démographique, mais plutôt lié au fait que certains pays sont déjà complètement saturés, Et c'est notamment le cas de tous les pays qui bordent le golfe de Guinée, donc plutôt dans la partie basse de la carte, donc voilà, le Bénin, le Lomé, etc. On a déjà en fait un phénomène d'étalement urbain qui fait que les régions côtières sont complètement saturées. Et puis à l'inverse, des régions où on a encore une faible occupation, et donc là où la croissance démographique posera peut-être moins de problèmes. Et donc on le voit, on peut s'attendre à ce que, du fait de cette très forte croissance démographique dans un contexte de saturation des terres, on ait une concurrence pour l'usage des sols, et puis des tensions et des contraintes environnementales croissantes. Ceci étant posé, ce que je voulais faire, c'est mettre l'accent sur deux, trois axes de recherche sur lesquels les chercheurs de l'IRD ont réfléchi, avec d'autres, sur lesquels ils ont porté une attention particulière, qui d'un côté vont plutôt s'intéresser à l'impact de l'érosion côtière, donc essayer d'abord de mesurer cette érosion côtière, donc mesurer l'évolution du trait de côte, et puis l'impact que ça peut avoir sur les activités humaines. Et puis un autre axe, je suis pas sûre, je vous parlerai beaucoup des phénomènes d'étalement urbain dont j'ai fait mention, je pense que je vais manquer de temps. Un autre axe, c'est sur quelles sont les réponses possibles, les adaptations possibles que peuvent faire les populations pour faire face à l'épuisement des ressources naturelles et donc à ces contraintes environnementales dont j'ai fait mention à l'instant. Voilà. Donc je vais commencer par vous dire quelques mots sur l'évolution du trait de côte. Donc ce que je vous ai mis en tête de diapo, c'est quelques titres d'articles très récents qui montrent qu'on parle de choses qui sont très concrètes et qui se manifestent dès à présent, d'accord, sur les phénomènes d'érosion côtière dans des pays. Encore une fois, hein, vous verrez, je me suis vraiment focalisée sur cette région Afrique de l'Ouest, mais au Sénégal, il y a eu tout un tas de débats à cette occasion. Il y a eu une espèce de submersion, assez récemment, et qui a notamment inondé un cimetière. Donc il y avait des tombes qui se baladaient, etc. Ça a été extrêmement relayé dans la presse et ça a été l'occasion pour l'État sénégalais de s'emparer du problème et d'essayer de mettre en place un certain nombre de mesures. Voilà, je ne vais pas détailler plus avant ces différents articles, mais en tout cas on a aujourd'hui très clairement la preuve et la manifestation de ces phénomènes d'érosion côtière. Il y a un certain nombre de travaux qui, notamment menés par des géographes, qui d'abord, s'attachent à essayer de mesurer cette évolution du trait de côte pour en voir quelle est l'ampleur, à quel rythme se fait cette érosion. Évidemment, ça pose des questions évidentes de mesure, hein, et en particulier dans un contexte africain où les systèmes de statistiques, les organismes qui font ces mesures sont soit inexistants, soit font des recueils de données qui sont en général bien moins précises que celles auxquelles on peut accéder dans les pays développés. Peut-être juste, c'est quelque chose que j'ai appris en préparant cette présentation. Mesurer le trait de côte, en fait, on se dit, au fait, le trait de côte, c'est quoi ? C'est la limite entre la mer et la terre, très bien. Mais concrètement, si on me demandait, si je vous demandais comment vous feriez concrètement pour mesurer le trait de côte, comment vous feriez ? Parce qu'effectivement, si on est sur une plage, on s'aperçoit que on peut considérer que la limite entre la mer et la terre, c'est là où la vague, c'est juste là où la vague s'arrête. Bon, évidemment, il y a le problème des marées. Donc, est-ce qu'on y va à marée basse, à marée haute ? Très bien. Bon. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des marées avec des gros coefficients, et donc parfois, ponctuellement, la mer va bien au-delà de d'habitude. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce trait de côte-là qu'il faut mesurer ? Et puis parfois, il y a des tempêtes, et donc la mer va même bien au-delà du niveau qu'elle atteint par grande marée. Elle peut même aller inonder les maisons. Et donc, qu'est-ce qu'on considère comme la limite mer-terre ? Peut-être que c'est pas très grave. On peut peut-être choisir l'une ou l'autre mesure, mais évidemment, il est important qu'on adopte tous le même critère, parce que sinon on voit très bien les biais de mesure qu'on va avoir. Voilà. Et donc voilà. Donc parfois c'est ça peut être comme vous avez sans doute été récemment sur une plage, et donc voilà, vous avez une plage et puis vous avez parfois une dune ou un décrochage, et donc peut-être que ça peut être ça, peut-être que c'est la limite en fait entre ce qui est du sable et ce qui est la végétation. Enfin bref, voilà, j'en parle pas davantage, mais très concrètement, c'est pas si simple de mesurer la limite mer-terre. Bref. Et ensuite, voilà, et donc ce dont j'ai fait mention à l'instant, c'est que dans les pays en développement, souvent vous avez plein d'études de cas qui sont très localisées, donc parce que vous avez eu un doctorant qui s'est intéressé à l'érosion côtière, sur une petite partie de la côte sénégalaise, et donc il a fait un travail super poussé sur cette zone, et donc là, par chance, il y a plein de données, plein de trucs, et voilà. Et puis, peut-être vous avez un chercheur mauritanien qui a fait la même chose, mais en fait, lui, il n'a pas tout à fait retenu la même méthode, la même mesure, etc. Bon, bref, vous vous retrouvez avec en fait plein de travaux comme ça faits ponctuellement, mais qui sont souvent avec des données qui sont souvent pas harmonisées. Et si vous vous intéressez à l'évolution du trait de côte sur l'ensemble de la côte ouest africaine, vous vous trouvez face à un problème, quoi. Et donc voilà. Et donc les choses vont évidemment beaucoup progresser, en particulier grâce au progrès de, enfin, et grâce à la précision de plus en plus, enfin, au fait qu'on dispose d'images satellitaires enfin, meilleures d'année en année. Et donc ça, c'est clairement une source de progrès. Mais voilà. En tout cas, j'insiste là-dessus parce que quand on travaille sur les pays en développement, on est toujours confronté au fait qu'on a beaucoup moins de données que dans les pays développés. Et qu'il faut toujours être un tout petit peu plus innovant et un peu plus créatif. Donc là, je fais une fleur aux chercheurs qui travaillent sur ces pays que peut-être quand on travaille sur des pays développés où il y a pléthore de données. Une façon de... et là, on est vraiment dans les sciences sociales. Une façon peut-être de mesurer ce trait de côte, et c'est quelque chose c'est une initiative qui a été prise dans le cas de la France, c'est de s'appuyer, d'avoir une approche participative et de dire, au fond, il y a plein de gens qui vont sur des plages, qui vont s'y promener, qui vont après le repas du dimanche, qui vont avec leur famille faire toute la plage, etc. Et ces gens-là, ils peuvent être une source d'information, quoi. Et notamment dans un contexte où presque tout le monde a un smartphone, hein, et donc presque tout le monde peut faire un relevé géolocalisé. Et donc c'est une initiative qui a été prise en France où en fait on demande à qui veut de participer à la collecte de données sur le trait de côte, et donc à chaque fois qu'il va sur la plage, de prendre une photo du trait de côte et puis de le géolocaliser. Et donc ça, évidemment, si on s'appuie sur les citoyens pour faire des mesures, eh bien, on voit bien que ça décuple d'autant les données dont on va avoir, et donc tout ça, ça permet d'améliorer les choses. Bref, et le résultat final, donc là je vous montre l'évolution du trait de côte dans une partie du Sénégal. Quand vous avez suffisamment de recul temporel, hein, pas de temps suffisamment long, et on commence à voir des choses. Et ces choses-là, elles montrent très clairement qu'on a le phénomène d'érosion côtière qui a été mentionné tout à l'heure, puisque tout ce qui est en rose là sur le graphique, c'est un recul du trait de côte, d'accord. Et puis de façon un peu, à certains endroits, vous avez une courbe plutôt verte qui suggère plutôt que là, on a la côte a progressé sur la mer. Mais bon, grosso modo, là, donc, on est sur la partie droite du graphique, on est sur un pas de temps relativement long qui va de 1954 à 2006, et vous voyez qu'on a un recul très, très important. Voilà, donc tout ça est maintenant scientifiquement fondé, hein, et donc les alarmes qui sont envoyées par les scientifiques depuis de nombreuses années déjà, maintenant, sont illustrées par de nombreux cas. Pour finir là-dessus, évidemment, une fois qu'on a mesuré, une fois qu'on a évalué l'impact, l'idée c'est qu'ensuite on communique auprès des gestionnaires pour qu'ils prennent conscience des phénomènes qui sont en cours, et puis pour qu'ils ensuite ils prennent des mesures pour essayer d'atténuer ou de s'adapter aux changements qui sont à l'œuvre. Et donc une façon de le faire, et donc là je vous ai mis un petit exemple parce que je le trouve amusant, c'est de faire jouer en fait, faire un jeu de rôle avec des scientifiques d'un côté, des gestionnaires de l'eau, des maires. Et donc c'est quelque chose qui a été fait dans le cas de l'île d'Oléron avec des élus, enfin des gens comme vous et moi, sauf qu'ils sont partie prenante de l'aménagement de l'île d'Oléron suite à la tempête Xynthia, où l'île d'Oléron a été particulièrement frappée. Donc ce qui a été fait, c'est justement l'organisation d'un jeu de rôle comme ça, où les scientifiques ont construit un modèle, d'accord, qui montre ce qui se passe sur l'île d'Oléron en cas de submersion, et ensuite propose différents scénarios de gestion de cette érosion côtière. Donc les élus ont la possibilité d'adopter plusieurs, de mettre en place plus différentes mesures. Ça peut être refaçonner une dune, ça peut être mettre en place une digue, ça peut être carrément décider que en fait ça n'a aucun sens maintenant de vivre tout près de la plage et qu'en fait il faut faire un recul stratégique, donc revoir le plan d'occupation des sols, etc. Donc on leur propose de tester ces différents scénarios. Ensuite, à travers le jeu et la modélisation, on peut regarder quel est l'impact des mesures adoptées. Et puis, l'intérêt de ça, c'est que ça sensibilise considérablement les parties prenantes aux problèmes auxquels ils ont à faire face. Et puis, ça leur permet aussi de discuter, voilà, de voir, de comprendre quels sont les enjeux des uns, les enjeux des autres, et puis de négocier, d'arriver à une solution négociée qui soit la plus favorable à tous. Voilà, bon, c'est un petit exemple. L'autre illustration, c'est les aires marines protégées. Puisque une des autres conséquences des phénomènes qui ont été décrits par Sabrina et une conséquence de la très forte croissance démographique fait que on a une pression accrue sur les ressources halieutiques, sur les ressources liées à la pêche, une compétition accrue pour l'accès aux zones de pêche, et puis ça évidemment avec le risque qu'on épuise la ressource, et donc la conséquence de ça, c'est que il y a eu un consensus international pour que se mette en place ce qu'on appelle des aires marines protégées, pour qu'on en augmente le nombre et puis pour qu'éventuellement on étende les superficies de ces aires protégées. Au départ, l'idée des aires marines protégées, c'était de dire qu'il faut faire des sanctuaires de nature, c'est-à-dire qu'il faut prévoir des zones plus ou moins grandes dans lesquelles on va totalement interdire le prélèvement de poissons, le prélèvement de flore, etc., de flore aquatique, etc., pour s'assurer que dans ces zones-là, il y aura zéro prélèvement et donc la biodiversité sera préservée, etc. Sauf que, évidemment, si vous ne tenez pas compte de l'accès et de l'usage qui pouvait être fait au préalable dans ces aires marines protégées, ça risque de pas tout à fait se passer comme vous le souhaitez, puisque évidemment, potentiellement, vous avez des populations qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la pêche ou en tout cas de prélèvements qu'ils peuvent faire dans cette zone. Et donc, très vite, en fait, on s'est aperçu que ces sanctuaires de nature, si on voulait, ou en tout cas, si on voulait protéger les ressources, il fallait aussi intégrer la dimension socio-économique et trouver un équilibre, disons, entre l'objectif de protection d'un côté et puis l'objectif de développement de l'autre, surtout quand on est dans des pays en développement. Voilà. Je passe assez vite. Il y a différentes sortes d'aires marines protégées, des aires marines protégées qui sont vraiment très très contraignantes, jusqu'à des aires marines protégées qui justement essayent d'assurer cet équilibre entre protection et développement. Donc, quelle est la situation aujourd'hui ? Il y a quand même des forces qui vont vers l'augmentation du nombre d'aires marines protégées, puisqu'aujourd'hui, ces aires couvrent 6% de l'océan, avec des cibles à l'horizon 2020 et 2030. Et puis ce que je vous ai mis sur la carte, donc c'est à nouveau une petite focale sur l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ensemble des aires marines protégées ou des zones de protection que vous trouvez sur les côtes de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée. Et pourquoi j'insiste sur cette zone-là en particulier, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travaux menés par l'IRD, notamment par des anthropologues et des sociologues, sur la façon dont ces aires marines protégées ont été mises en place. Et il y a également des économistes qui ont travaillé avec des biostatisticiens pour essayer d'évaluer l'efficacité de ces aires marines protégées. Voilà. Et donc, simplement pour en dire deux mots, le problème des aires marines protégées, enfin, on les présente très le plus souvent sous un jour très positif, hein, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'a priori, c'est une bonne idée. Mais évidemment, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même aussi tenir compte de ce qui pouvait exister au préalable, et notamment de tout le système de droit coutumier qui pouvait donner accès et qui permettait à certaines populations d'avoir un usage de ces zones-là, quoi. Et donc ça impose quand même au préalable d'avoir tout un jeu de négociations entre les différentes parties prenantes, que ce soit les pêcheurs, que ce soit des agriculteurs-pêcheurs qui combinent les deux activités, que ce soit aussi des acteurs du tourisme, parce qu'évidemment une aire marine protégée tend à accroître l'attractivité d'un site, puisqu'on pense qu'il va être plus préservé, peut-être plus beau. En faisant du snorkeling, on va peut-être voir plus de poissons multicolores. Et donc, ça a un effet drainant et avec des retombées positives. Donc, il faut aussi réfléchir à comment partager la rente liée à l'écotourisme. Enfin, bref, donc tout ça impose des négociations en amont pour éviter qu'il y ait des conflits et une opposition vive de la part des populations et de certains acteurs. Voilà, et donc le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que en fait on a eu plusieurs cas de figure dans les aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, plusieurs cas de figure qui se sont produits. Premier cas de figure, c'est l'État sénégalais dit ok, on va faire une aire marine protégée dans telle zone, donc c'est désormais le droit national qui va s'imposer, c'est la loi sur le littoral qui va s'imposer, et donc c'est les règles imposées par ce droit qui vont s'imposer, en faisant totalement fi des droits coutumiers, etc. Le problème, c'est que l'État sénégalais, par ailleurs, il n'a pas beaucoup de moyens pour s'assurer que les restrictions qu'il impose sur une zone donnée sont respectées. Faute de moyens de police, de moyens de surveillance, etc., si vous dites cette zone-là, il est interdit d'y pêcher, mais que vous n'avez aucun moyen de contrôle, évidemment, là, l'efficacité est à peu près nulle, quoi. Et donc, d'où l'importance, et c'est ce qui a pu avoir lieu dans d'autres aires marines protégées, de tenir compte des droits coutumiers, qui sont de façon traditionnelle attachés au respect de la nature parce que c'est leur gagne-pain, quoi. Enfin, c'est le gagne-pain des populations, et donc d'asseoir plutôt ces aires marines protégées sur ces droits coutumiers et de voir comment combiner un droit formel au droit traditionnel d'accès et d'usage à ces ressources halieutiques. Et donc on peut avoir une pluralité de droits, une pluralité de normes, ou alors l'apparition d'un droit un peu syncrétique qui va être un peu un mix entre des droits traditionnels et du droit moderne, mais qui va permettre de faire en sorte que ces restrictions soient efficaces. Bref, je passe un peu vite peut-être sur l'efficacité des aires marines protégées. Je vais passer, on pourra y revenir dans le cadre de la discussion. Merci.